Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou.
Dernière nouvelle des choses, un livre de Roger Paul Droit, lecture proposée par Christine Fusarelli. Aujourd'hui, la sandale, ou comment une chose banale peut devenir objet de dissertation. À la maison, un soir d'hiver. Il y a déjà longtemps que j'aurais dû ranger les affaires d'été. Peut-être que je traîne à cause de la nostalgie du soleil, des chaleurs permettant de sortir sans pull, même la nuit. Ranger les affaires d'été, c'est reconnaître que tout cela est fini et ne reviendra que dans longtemps. Je vais commencer par ranger les sandales dans une caisse. Elles conservent toujours des foules de souvenirs. Toile d'espadrille que l'on tâte de l'orteil, qui coupe un peu le dessus du pied, qui traîne dans les arènes en fin d'après-midi quand sont finis les combats. Semelle de cordes devenue dure comme bois quand on a marché le soir sous la pluie tiède et dans la frange des vagues à l'aube. Et les sandales de rocher, les plaines d'algues, les translucides, les en plastique où se logent toujours, une fois les vagues refluées et les bulles parties, du sable et de minces cailloux, un fin fragment de coquille parfois. Ou encore les feuilles de cuir du Grand Sud, juste tenues à l'orteil ou à la cheville, protégeant de la brûlure du sable ou de l'éclat des roches. Celles-là, je les préfère entre toutes. Rien qu'une feuille de cuir, épaisse et souple, à peine une semelle, tenant par quelques lanières ou boucles, élémentaire et robuste. En commençant à ranger celles de l'été dernier, déjà râpées, écorchées de promenades sur les rochers, je songe brusquement à la différence séparant ce cuir ouvert, plat comme la main, et nos habituelles chaussures. Cela ferait un beau sujet de dissertation. La sandale est-elle une chaussure? Vous avez 4 heures. Première partie. Les esprits simples jugeront tout de suite la question réglée. Dans la classe des choses s'adaptant aux pieds humains, disent-ils, et le protégeant, des blessures, du froid, de la poussière, se trouvent aussi bien les bottes que les mocassins, les poulaines que les escarpins. Ouvertes ou fermées, hautes ou basses, en cuir, en feutre, en plastique, toutes ces choses appartiennent, en fin de compte, conclut-il, au même ensemble. Deuxième partie. Transition, objection. Des esprits plus simples, observant sandales et chaussures, se mettront à douter. Le plus souvent, une chaussure masculine ne donne pas à voir les orteils. Elle ne laisse pas le pied exposé à tout vent. La sandale serait donc une chaussure incomplète, tronquée ou bien embryonnaire. Une chaussure faite d'autant de néant que de cuir. Un être à trous. Chaussures allégées, inférieures en poids, en confort, en dignité. Choses appartenant à la panoplie de nos étés honteux, où tout est tronqué. Voyez le short, la chemisette. Troisième partie, objection à l'objection, discussion. Des esprits plus simples encore, juste capables de contempler, les philosophes peut-être, s'ils existent, trouveront de tels jugements étonnants. Les chaussures, en effet, ne sont étanches et lourdes que dans les contrées froides. Partout ailleurs, la sandale peut revendiquer, légitimement, une égale dignité. Et même une antériorité presque générale sur la chaussure, qu'on songe à cette victoire grecque délassant sa sandale, qu'on songe encore à l'Inde, à l'Égypte, à la Chine, jamais il n'apparaît que la sandale, du point de vue de l'histoire universelle, manque de quoi que ce soit. Conclusion, changement de perspective. Ne pourrait-on dire que la sandale, en fin de compte, est superflue? Voilà ce que finit par conclure le plus simple des simples, celui qui sait que notre pied, depuis les temps sans mémoire, marche nu sur la terre et le roc, le sable et la boue, les herbes et les mousses. Il suffit de prendre à nouveau, même peu de jours, l'habitude de marcher pieds nus pour trouver pesante la plus légère sandale. Au regard de tout ce qui vient d'être dit, on peut donc parler d'un être double de la sandale. Ni chaussure, ni non-chaussure. Elle désigne la possibilité de penser une chaussure autre. La petite caisse est presque pleine. Il est temps que je rende les copies, que je fasse le corrigé. Beaucoup de points importants n'ont pas été vus. Des références, pourtant très classiques, ont été omises. Hermès, Empédocle, etc. Surtout, la plupart n'ont pas saisi que la sandale donne une leçon d'intermédiaire. Elle enseigne la médiation et l'interface. À la jointure de la nature et de la culture, elle sépare et réunit le pied et le sol. Elle incarne la frontière des mondes, la pellicule qui permet leur coexistence et les fait s'ajointer. Vous auriez pu mentionner, éventuellement développer, qu'on trouve la sandale entre chair et terre, aussi bien qu'entre passé et présent, artisanat et industrie, est et ouest, nord et sud, chaud et froid. Et comme elle a aussi partie liée au mouvement, à la légèreté, au vent, pourquoi ne pas suggérer que c'est la charnière du monde ?
Rendez-vous lundi avec le lit.